Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h. À partir du 1er janvier 2016, le service public de l'orientation SPRO sera obligatoire en France. En Orisère, une opération pilote a été mise en place avec l'ouverture d'une plateforme numérique ONITV permettant à tout un chacun d'obtenir tous les renseignements sur les dispositifs de formation, mais aussi sur les acteurs économiques de notre territoire et les différents métiers. Dans le cadre de ce projet, des émissions, des interviews, des tables rondes et des captations vidéo seront réalisées pour alimenter le site ONITV. Couleur FM, Plume Studio et la mission locale Nord-Isère sont partenaires de ce projet porté par la région Rhône-Alpes. Ce mois-ci, nous vous proposons une émission sur l'emploi des personnes handicapées. La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avait lieu du 16 au 22 novembre 2015. Parce que le taux de chômage des personnes handicapées est le double de la moyenne française, il est temps de réagir et de s'engager. Pour aborder cette thématique, mes invités sont Madame Jacob, chargée de recrutement au CAR Berthelet, Madame Schneider, conseillère emploi à Cap Emploi, Madame Deschamps, responsable d'agence à Cap Emploi, et Madame Bali, conseillère service entreprise à Pôle Emploi. Dans un premier temps, je souhaiterais que Madame Deschamps nous présente ce qu'est Cap Emploi.
Alors, Cap Emploi, en fait, nous sommes d'abord une association qui existe depuis 83 sur l'Isère, association qui s'appelle Oe Prométhée, qui porte la mission du Cap Emploi. Nous sommes dédiés donc à l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés et nous accompagnons également les entreprises dans leur démarche de recrutement.
Il y a aussi un conseil en formation?
Oui, en fait, nos missions sont donc dédiées, donc, comme je le disais, donc, à la fois sur l'accompagnement des personnes travailleurs handicapées et sur les entreprises, mais également en fait, dans cette mission pour aider les personnes à s'insérer. Quelquefois, il faut monter en compétences. Et c'est le propos en fait, des conseils en formation, c'est d'amener un cursus de formation, c'est-à-dire monter la démarche administrative et financière, parce que les formations, c'est tout un process. Hein, les financements, il faut les chercher, il faut adapter les dossiers. Donc, c'est leur mission, effectivement, de mettre en lien, je dirais, la demande de formation, des formations existantes sur le marché du travail et quelquefois adapter un parcours très particulier.
Alors, justement, je vais faire intervenir Madame Bali du Pôle emploi. Quelles sont vos coordinations, justement, avec Cap Emploi?
Alors, nous inscrivons les demandeurs d'emploi, donc tout demandeur d'emploi, c'est-à-dire tout public, tout profil. Et ensuite, nous orientons certains demandeurs d'emploi, donc avec reconnaissance travailleur handicapé, vers le Cap Emploi pour un suivi, donc délégué.
Alors, est-ce qu'il y a un niveau d'handicap qui vont à Cap Emploi ou est-ce que c'est toute personne reconnue handicapée? Parce que je sais qu'il y a des niveaux par rapport au Cotorep.
Déjà, les Cotorep, le terme n'existe plus. Hein. D'accord. Donc, en fait, il est caduc depuis la loi de 2005. Donc, maintenant, on parle de reconnaissance travailleur handicapé. L'orientation, en fait, elle se fait plus naturellement. C'est-à-dire que nous, en fait, on va accompagner les personnes dans leur démarche d'emploi. Et le frein à l'emploi, c'est le handicap. Donc, on va travailler autour de cette thématique avec la personne pour justement lever tous les freins et mettre en adéquation, j'irais, à la fois leur démarche d'emploi par rapport à leur projet et aussi vis-à-vis du handicap. Donc, en fait, on va monter tout un parcours avec la personne, un parcours de diagnostic, un parcours d'accompagnement, je dirais, personnalisé sur ce lever de frein dont on parlait, qui peut passer par des mises en situation, des prestations d'accompagnement particulières selon le handicap. Et l'idée, en tous les cas, c'est de bien mettre en adéquation, je dirais, la personne, le handicap et le projet. Voilà.
Donc, il y a tout style de handicap, aussi bien des handicapés moteurs que des handicapés pour d'autres raisons.
Tout à fait. Donc, les personnes, quand on les suit, ce sont des personnes qui sont orientées déjà dans le milieu ordinaire de travail. Nous ne pouvons suivre que ces personnes-là. Et donc, dans des typologies de handicap, on va retrouver le handicap physique. On va retrouver aussi donc, le handicap de type maladie invalidante, lésion cérébrale acquise, les troubles sensoriels, visuels, auditives, et le handicap psychique aussi, ainsi que la déficience intellectuelle.
Et comment sont reconnus ces différents handicaps? C'est quelqu'un qui délivre une attestation? Comment ça se passe?
Donc en fait, tout simplement, la personne se rapproche de la maison du conseil général hein, de son territoire et va donc demander un dossier pour établir une demande de reconnaissance travailleur handicapé. Donc c'est la première démarche et il arrive effectivement que des personnes aient d'autres documents que la reconnaissance travailleur handicapé. Il peut avoir aussi une pension d'invalidité, une rente accident du travail. Là, on est dans soit un accident de la vie privée, soit dans le cas d'un accident de travail.
Et la durée pour pouvoir être reconnu comme travailleur handicapé, il y a des délais, est-ce que c'est long, est-ce que...
C'est 6 mois actuellement. Pour le temps de déposer le dossier, puis ensuite qu'il soit traité, il faut un délai à peu près de 6 mois pour que le dossier il soit statué, en fait.
Et c'est qui décide de vous reconnaître travailleur handicapé? Alors, est-ce qu'il y a toujours, puisque le COTOREP n'existe pas, est-ce qu'il y a toujours des niveaux d'handicap?
Non, il n'y a plus de niveau de handicap. Maintenant, en fait, vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et on vous donne un pourcentage. Soit vous êtes inférieur à 50, de 50 à 79, ou supérieur à 80. Et en fonction de ça, ça veut simplement dire que vous avez une restriction substantielle et durable au travail, en fait, hein, puisque c'est toujours lié au travail.
Et ça passe par une commission, je suppose.
Oui, il y a des commissions qui ont lieu régulièrement sur Grenoble, en fait. Hein, une fois que le dossier est déposé au territoire, il part à Grenoble et il revient ensuite au territoire pour donner la décision à la personne.
Et dans la décision qui est prise, est-ce qu'il y a, par exemple, une restriction de certains emplois, une restriction d'horaire? Comment ça se passe?
Non, pas du tout. Ça, c'est le médecin du travail qui, après, va statuer lorsque la personne est en emploi.
Parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas du tout, en fait. Alors après, effectivement, on pourra rentrer dans le détail peut-être après sur les quotas dans les entreprises, etc. Alors vous, au Pôle emploi, comment gérez-vous ces personnes qui arrivent? Soit elles ont été reconnues travailleurs handicapés, soit elles ne le sont pas et elles doivent attendre effectivement d'avoir les documents nécessaires?
Oui, tout à fait. Quand elles arrivent à Pôle emploi, il faut qu'elles aient leur reconnaissance travailleurs handicapés pour pouvoir les orienter à Cap emploi. Sinon, on ne peut pas les orienter et donc c'est nous qui les suivons. Alors, soit en attendant qu'elles aient leur dossier statué, soit ben, on va les conserver en accompagnement à Pôle emploi puisqu'on ne peut pas orienter tout le monde à Cap emploi non plus.
Alors justement, dans les entreprises, comment fait-on pour amener des travailleurs handicapés, puisqu'on sait que c'est une grosse difficulté, puisqu'actuellement, il y a environ 2 fois plus de travailleurs handicapés sans emploi que de travailleurs non handicapés. Donc là, comment peut-on faire pour pallier à tout ça?
Bien, en fait, ça va dépendre aussi de la personne, donc de son parcours de vie, de son parcours professionnel, de son handicap. Donc, on va, lors d'un premier entretien que l'on mène, on va évaluer un petit peu tous ces éléments-là, savoir ce que la personne souhaite faire, ce qu'elle est en capacité de faire, et ensuite, en fonction de ça, ben, on va voir ce que l'on peut mettre en place. Et ben, notamment, donc, je peux citer un peu l'exemple peut-être d'une personne que j'ai suivie. Donc, il s'agit d'un monsieur qui avait un parcours en logistique, qui ne pouvait plus, un parcours professionnel donc en logistique, il était cariste, il ne pouvait plus ni porter de charge, ni rester en station debout prolongée, et donc il fallait qu'il retravaille un nouveau projet professionnel. Donc, on a utilisé les outils que l'on avait à notre disposition, c'est-à-dire la construction des projets professionnels. Quand il est revenu, il avait un projet donc de conducteur de car, et pour pouvoir vérifier que c'était bien ce projet-là qui l'intéressait, je l'ai envoyé donc faire une information collective au Pôle emploi de la Tour du Pin. Il y a des informations collectives transport tous les 2 mois à peu près. Et puis ensuite, une fois que tout son projet a bien été confirmé, il fallait qu'il puisse faire une période en immersion en entreprise. Donc j'ai interpellé à ce moment-là l'écart Berthelet, Madame Eugénie Jacob, pour lui demander s'il y avait une possibilité pour cette personne de faire un stage chez eux, ce qui a pu se faire. À la suite, son projet était cette fois-ci validé. Et donc, on a cherché les financements avec notre collègue de la formation pour financer le permis D et la FIMO. Et une fois qu'il a tout obtenu, il a pu être embauché en CDI sur l'entrepôt, je ne sais plus si c'était Crémieux ou Genas à l'époque.
Voilà. Donc, un vrai partenariat entre le Pôle emploi, les entreprises et les organismes de formation pour arriver à sortir quelqu'un, justement, d'une situation difficile. Mmh. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale. On va écouter Cat on Tree et c'est Sirens. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away.
C'était Caton Tree Sirens. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et aujourd'hui nous abordons la thématique des personnes handicapées. Avec moi, Madame Jacob Descartes-Berthelet, Madame Schneider du Cap Emploi, Madame Deschamps du Cap Emploi et Madame Bali de Pôle Emploi. Alors on va revenir justement sur les Descartes-Berthelet. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous nous présenter un petit peu votre structure avant qu'on parle de, justement du process d'embauche des personnes handicapées?
Oui, bien sûr. Donc nous sommes une entreprise de transport de voyageurs en interurbain qui est basée donc sur trois départements, l'Ain, l'Isère et le Rhône. Le siège social se trouve à Crémieux en Isère. On est environ 300 collaborateurs, dont 200 conducteurs de voyageurs. C'est une entreprise familiale qui existe depuis bientôt 70 ans. Elle a été créée en 1946. Donc l'activité se répartit en deux domaines principaux. Alors 77% de l'activité, donc la majorité, c'est une activité régulière. Donc tout ce qui va être transport scolaire, ligne régulière, ligne d'usine. Et puis le reste de l'activité, les 23%, ce sont une activité plutôt tourisme occasionnel.
Quels sont vos clients ?
Alors on travaille principalement avec les conseils généraux. Donc sur les trois départements. Et on a également l'aéroport comme client puisqu'on a une activité, les navettes parking. Donc c'est une activité particulière qui fonctionne tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. On travaille également avec les mairies. On travaille aussi avec au niveau occasionnel et tourisme avec des clients divers tels que des associations, tels que des clients privés, etc.
Quel est le type d'employé ?
Alors, on a une grande diversité au niveau des employés. Alors, on a surtout des hommes quand même, mais c'est un métier qui se féminise beaucoup, mais une grande diversité, je dirais, au niveau des parcours. Parce qu'on a des personnes principalement en reconversion professionnelle qui viennent, qui rentrent dans notre métier. Donc, ça peut être des personnes qui arrivent assez tôt dans leur parcours, comme des personnes qui viennent en fin de carrière ou pour un complément d'activité. Donc en termes d'âge, de 21 ans, l'âge minimum, jusqu'à l'âge en fait où la visite médicale du permis permet de continuer à conduire. Donc on a des personnes qui ont plus de 65 ans dans l'entreprise et qui continuent à travailler, alors souvent sur des temps partiels, sur une activité scolaire avec un service le matin, un service le soir, pour continuer, compléter leurs revenus ou s'occuper tout simplement.
Quelles sont les compétences requises pour être chauffeur de bus ou de car ?
Alors, la première des choses au niveau légal, c'est d'avoir plus de 21 ans, le permis D permettant de conduire en autocar et la FIMO voyageur. Et ensuite, au niveau compétences que l'on recherche au niveau du recrutement, on a tout d'abord la disponibilité qui est importante dans ce métier, puisqu'on est sur des métiers où les horaires sont coupés, où on démarre souvent assez tôt le matin, on finit tard le soir, il y a des coupures dans la journée, donc il faut être disponible pour répondre à tout ça. Il faut avoir beaucoup de rigueur dans ce métier, c'est très important, le sens des responsabilités, une bonne gestion du stress. Donc ça, c'est essentiel hein, par rapport au public qu'on transporte et puis à la multitude des contraintes que doivent gérer les conducteurs. Donc au niveau de leur planning, des horaires à tenir, de la gestion du public et puis de l'itinéraire qu'ils doivent bien évidemment suivre. Et puis on a également, en termes de compétences, des aptitudes forcément à la conduite et qui sont très importantes. Mais on se rend compte que dans ce métier, les aptitudes à la conduite sont essentielles, c'est le cœur du métier, mais c'est aussi tout ce qui gravite autour en termes de savoir-être, en termes de responsabilité, en termes de sens commercial, qui deviennent de plus en plus importantes dans ce métier.
Alors, est-ce que c'est un secteur qui recrute ?
Oui, complètement. C'est un secteur qui recrute. On a deux types de profils. On va avoir des personnes qui ont déjà un permis D, une FIMO, qui sont conducteurs et qui postulent en direct. Donc ça, c'est à peu près 20% de nos recrutements. Et puis 80% des profils que l'on reçoit, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont fait des choses diverses et variées avant de venir chez nous et qui arrivent en fait dans le métier en changeant de carrière. Alors souvent, je dis un petit peu par dépit, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur voie ou parce qu'ils ne peuvent plus occuper leur emploi actuel. Et à ce moment-là, ils se découvrent en fait, ils découvrent ce métier parce que c'est un métier qui finalement est peu connu. Donc viennent un peu par dépit au départ et puis heureusement se rendent compte que ce métier peut leur convenir et ils peuvent faire démarrer une carrière au sein des Descartes-Berthelet, peu importe l'âge qu'ils ont. Puisqu'on démarre souvent dans nos métiers par du transport scolaire, par du temps partiel. mais on peut évoluer vers des activités diverses, comme on le disait au tout départ. On n'a pas que du régulier, on a aussi des activités, donc un marché sur l'aéroport, on a du transport occasionnel, on a le transport tourisme, on a du transport, donc là on va rentrer par exemple dans la saison neige. Donc, on emmène des clients en station. C'est une activité qui va démarrer en décembre, qui dure jusqu'au mois d'avril et qui permet aux conducteurs d'évoluer, de monter en compétences.
Alors, est-ce que vous vous assurez aussi des formations? Si, par exemple, un jeune de 21 ans n'a pas les permis, n'a pas tous les diplômes nécessaires, est-ce que vous prenez des jeunes en alternance? Comment ça se passe?
Alors,
ou pas?
Oui, en partenariat, en fait. On travaille donc justement en partenariat avec les pôles emploi pour tout le volet, en fait, financement des formations. Nous, on n'est pas centre de formation. Donc, on travaille aussi avec des centres de formation agréés qui dispensent ces formations. Il y en a au niveau local. Et nous, en fait, on intervient dans ce partenariat en amont, parce qu'il faut un engagement d'une entreprise lorsque l'on reçoit des personnes qui n'ont pas cette formation. Donc on accompagne en fait les personnes au cours de la formation qui dure 3 mois. Et ensuite, en interne, lorsqu'une personne a validé sa formation, donc le titre professionnel voyageur, on assure en interne une formation. Puisqu'un conducteur qui vient d'être diplômé ne peut pas démarrer tout de suite, il a besoin d'être formé sur différents points en interne. Donc ça, on l'assure. Parallèlement, on fait des contrats de professionnalisation. On a actuellement à peu près 12 personnes qui sont en contrat de pro sur des métiers de conduite.
Est-ce qu'il y a des jeunes?
Oui, on a des jeunes de 21 ans, donc l'âge minimum, tout à fait.
Alors, Madame Bali, vous qui êtes au Pôle emploi, est-ce que c'est effectivement des secteurs où on peut envoyer du monde se former, ou est-ce que à terme, avec tout ce qu'on entend effectivement sur le climat, sur la COP21, on se dit qu'il faut faire de plus en plus de transports collectifs, ou est-ce que c'est...
Oui, ce sont effectivement des métiers qui nous sont de plus en plus demandés. Parce que, comme disait madame, en fait, il y a de plus en plus de femmes qui s'orientent sur ces métiers par rapport au temps partiel. C'est très pratique par rapport à leurs enfants. Donc, du coup, on a beaucoup de femmes qui nous demandent effectivement des permis D.
Alors, pour revenir aux personnes handicapées, donc vous avez recruté au sein de votre entreprise une personne que vous a envoyée le Cap Emploi. Alors, comment se passe le process de recrutement des personnes handicapées? Parce que là aussi, quel type de handicap pour être dans votre entreprise?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le process de recrutement est le même que la personne ait une reconnaissance travailleur handicapé ou pas. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une information collective auquel on participe, où on informe sur notre entreprise, les métiers, les avantages, les contraintes. Ensuite, il y a des tests qui sont obligatoires et qui sont les mêmes pour toute personne, qu'on ait un handicap ou non. Si les tests sont validés, on accueille les personnes une semaine en période d'immersion en entreprise. Chaque jour, ces futurs conducteurs, ces conducteurs potentiels vont suivre des conducteurs qui sont en poste, qui sont expérimentés sur leur travail pour justement pouvoir évaluer de l'intérieur les avantages, les contraintes du métier. Et puis à l'issue de la semaine, on fait un point, un bilan. Alors je parle souvent de double évaluation parce que nous, on va forcément évaluer la candidature, la motivation, les aptitudes d'adaptation au poste, et la personne va évaluer aussi l'entreprise, le métier, pour voir si c'est en adéquation avec ce qu'elle recherche. Donc c'est à ce moment-là effectivement où on fait le point sur les contre-indications qu'il peut y avoir par rapport à l'handicap, si ça peut être compatible ou pas. Mais nous, plus en termes de conditions de travail, quel impact ça peut avoir. Ensuite, l'aspect médical, on ne le maîtrise pas du tout et on ne rentre pas là-dedans. C'est le médecin ensuite du travail qui valide si la personne peut se projeter ou non dans le métier. Mais le process de recrutement est vraiment le même.
Alors, quels sont vos liens justement avec Cap Emploi? Comment vous procédez?
En fait, je dirais que les liens qu'on peut avoir, c'est surtout pouvoir présenter des personnes, envoyer des candidatures, qu'après, donc, au niveau de Berthelet, ils reçoivent, ils évaluent un petit peu leur savoir-être, tout dans un premier temps, avant de les intégrer justement dans le process qui est déjà mis en place.
Et beaucoup de demandes, là aussi?
Ça dépend des années, en fait. C'est un peu particulier. Bon, cette année, il se trouve qu'on en a 3 qui sont en contrat de professionnalisation. On en a un autre qui vient d'intégrer, même 2, je crois, un sur Genasse, un sur Crémieux.
Exactement.
Voilà, donc c'est vraiment variable. Il y a des périodes où on a plusieurs demandes, puis il y a des périodes où on va... Bon, c'est calme.
Et si ce n'est pas indiscret, quel genre de handicap?
tout type de handicap, handicap physique, mais il peut y avoir également des maladies invalidantes. Ça peut convenir à des personnes notamment qui ont des pensions d'invalidité et qui du coup vont compléter leur pension d'invalidité avec un travail à temps partiel dans tout ce qui est transport scolaire.
Est-ce que vous arrivez à faire beaucoup de CDI ? Comment ça se passe au sein de l'entreprise ?
C'est le contrat principal qu'on propose, le CDI. Je dirais qu'on fait peu de CDD, peu de travail temporaire, mais beaucoup de CDI parce que notre objectif, c'est la fidélisation effectivement des personnes qu'on recrute. On a un process de recrutement qui est assez lourd, assez long. Et en interne, quand on recrute sur ces métiers où la responsabilité, elle est énorme, hein, on transporte des vies humaines, du coup, on a vraiment mis l'accent sur la formation en interne, donc qui est dispensée par nos formateurs. On a également des tuteurs en entreprise qui prennent ensuite le relais. Donc on investit beaucoup au départ de temps sur les nouveaux conducteurs qui sont recrutés. Du coup, l'objectif, c'est effectivement des CDI pour garder et pérenniser nos effectifs.
Donc pas de trop de turnover.
On est dans un métier où le turnover est important parce que les contraintes du métier sont importantes. Je parlais de disponibilité. Effectivement, c'est un métier où on a des personnes effectivement qui malheureusement quittent notre société par rapport à, justement aux horaires qui sont contraignants, aux coupures dans la journée, etc. Donc c'est un métier aussi où il y a une forte pression. Quand on transporte des personnes, des enfants, le bruit, le stress, c'est un métier effectivement où le turnover est important par rapport aux contraintes.
Et est-ce que vous avez vous devez avoir un chiffre entre hommes et femmes, on arrive à quelle proportion actuellement ?
On a à peu près 25% à 30% de femmes dans l'entreprise.
Donc ça représente une belle proportion. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, on a choisi Muse et c'est Merci.
Another many calls trying to get
C'était Muse, le titre Merci. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Jacob des Quarts Berthelais, Madame Schneider du Cap Emploi, Madame Deschamps du Cap Emploi et Madame Bali du Pôle Emploi. Nous abordons aujourd'hui la thématique des personnes handicapées dans l'emploi. Alors, il y avait la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 16 au 22 novembre 2015. Une nécessité. Alors, pourquoi cette semaine ?
Eh bien, donc, comme on le disait tout à l'heure, donc, le taux de chômage des personnes reconnues travailleurs handicapés est le double hein, des personnes donc, non handicapées. Et donc, il faut effectivement s'engager et faire bouger les choses. Donc, depuis 1997, cette semaine existe. Elle a lieu la troisième semaine du mois de novembre. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant cette difficulté de retour à l'emploi. Donc, ce lien est important. Au niveau, donc, cette année, c'est une semaine européenne. Précédemment, c'était une semaine nationale. Donc, il se déploie des actions différentes selon le territoire. Nous, au niveau du Cap Emploi, sur le département, nous mettons en œuvre, effectivement, depuis maintenant 8 ans, en fait, une action qui s'appelle donc la journée de la fonction publique à Grenoble, dont Anne-Cécile va pouvoir expliquer la démarche.
Donc là, le 19 novembre a eu lieu donc, la journée fonction publique, qui est une action qui est organisée avec le partenariat du Conseil régional, du FIPHFP, du Conseil général et de Grenoble-Alpes-Métropole. C'est la 8e édition. Elle est organisée par nos collègues de Cap Emploi sur Fontaine. Et l'objectif de cette manifestation, c'est d'informer sur les différents handicaps, de susciter des pistes de réflexion sur le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique, d'apporter des outils d'aide au recrutement et à l'intégration, de repérer des candidats, puisqu'en fait, l'après-midi, il y a notamment des jurys de pré-recrutement, hein, et de favoriser surtout le partenariat local pour pouvoir mettre en avant les personnes travailleurs handicapées.
Et plus localement, donc en fait ici, donc nous mettons en place en fait ce qu'on appelle une matinale, c'est-à-dire une action de sensibilité auprès des entreprises pour leur donner une approche un peu différente du handicap. Donc la première année, nous avions évoqué la problématique d'ordre auditif, c'est-à-dire comment on intègre une personne travailleur handicapée qui a des problèmes auditifs, avec l'intervention de l'URAPEDA qui nous accompagne dans l'interprétariat hein, lors des intégrations donc au sein des entreprises. Sur la deuxième année, nous avons souhaité parler du handicap psychique, plus précisément, ou en fait, comment on le gère, comment on l'intègre, comment l'entreprise peut être accompagnée dans cette démarche. Et cette année, plus particulièrement, nous avons souhaité mettre le focus sur le handicap physique, puisque le handicap physique, dans le public que l'on suit, ça représente quand même plus de 50% des personnes. Et on voulait donc, au travers de cette démarche, expliquer qu'intégrer une personne qui a une problématique d'ordre physique, c'est possible. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir des aménagements simples qui ne sont pas forcément coûteux. Pour ça, en fait, on a bénéficié aussi de la collaboration de l'entreprise Ecomatic qui nous accueille dans ses locaux, qui elle-même avait fait une démarche d'intégration dans tous les cas dans le cadre du maintien d'aménager ses postes. Nous avions aussi un service ergonomique qui était venu expliquer ce que c'est que la démarche ergonomique dans une entreprise. Donc voilà, on essaye en tous les cas de sensibiliser les entreprises sur différentes thématiques pour, j'irais, dédramatiser en fait hein, l'approche, la difficulté que peut représenter dans le cadre d'un recrutement le handicap. Il faut vraiment faciliter cette lecture au niveau des entreprises.
Quel est le partenariat avec la semaine pour l'emploi des personnes handicapées avec le Pôle emploi ?
Alors, pour cette année, c'est la première fois que l'on organise à Pôle emploi Bourgoin une matinée autour d'un petit déjeuner. On a invité des entreprises du secteur pour les sensibiliser aussi donc par rapport à l'embauche des travailleurs handicapés. Donc, on avait plusieurs partenaires qui étaient présents ce jour-là. Nous avions donc Cap Emploi qui présentait leur structure et leur accompagnement ainsi que les aides de l'AGFIP. L'AGFIP était présente elle aussi, étant donné qu'elle est, elle finance les organismes comme Cap Emploi et Alter. Donc Alter était aussi présent. Et puis on avait un ESAT, l'ESAT Messidor, qui venait là aussi pour présenter sa structure et la sous-traitance qu'ils peuvent faire dans les entreprises. Et puis nous avions une entreprise témoin, qui était donc les Garderies Land. Parce qu'ils sont en train d'embaucher actuellement une petite trisomique. Et donc, ils étaient là en tant que témoins avec la petite jeune qui était en train d'être embauchée. Donc nous avons proposé en fait aux entreprises déjà les sensibiliser par rapport à tous les types de handicap et puis leur montrer que d'embaucher une personne handicapée, c'est pas si dramatique que ça et qu'au contraire, ça peut même apporter aux équipes une solidarité et puis un autre comportement des autres salariés. Donc ça peut même être un côté positif d'avoir des personnes handicapées dans la structure. Donc c'est ce qu'on voulait prouver aux entreprises invitées.
Alors justement, quelle est la réaction des entreprises? Est-ce que quand vous les invitez, elles viennent? Est-ce qu'elles sont à l'écoute? Est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à faire des efforts sans sortir des... On sait que c'est 6% normalement dans les entreprises. Alors je ne sais plus quel est le quota de salariés, vous me le rappellerez. Parce que la punition, c'est si vous n'avez pas les 6%, vous payez une taxe. Est-ce qu'il y a vraiment du volontariat sur les personnes handicapées?
Alors, juste pour reprendre effectivement sur l'obligation d'emploi, parce que c'est ce qu'on ça s'appelle comme ça, donc effectivement, cette obligation est faite par les entreprises du secteur privé de plus de 20 salariés, et le quota effectivement est à 6%, et on appelle ça une contribution volontaire de l'entreprise qui est reversée à la GFIP notamment. Cette contribution aussi existe au niveau du public, puisque la loi de 2005 a imposé cette obligation aussi au secteur public. Donc oui, pour répondre à votre question sur est-ce que les entreprises répondent présentes à nos différentes actions, Séverine parlera effectivement de son côté, mais en général, oui, elles sont assez sensibles, même si elles sont très prises par ailleurs, par leurs activités, puisqu'elles ont quand même un objectif de faire tourner leur entreprise avant toute chose. Mais elles sont toujours intéressées par cette question-là, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, on fait quelque chose, elles répondent présentes, et ça les intéresse. Elles ont besoin aussi à des moments qu'on leur apporte des informations qu'elles n'ont pas la facilité de chercher par ailleurs, en fait.
Alors, je trouve que ça reste quand même un sujet un peu tabou quand même dans les entreprises, malgré qu'elles sont quand même en train de s'ouvrir de plus en plus par rapport à ce sujet. On a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont la politique d'intégrer des personnes au niveau de la diversité, pas seulement au niveau du handicap, mais tout type de profil, enfin même des profils RSA. Puis bon, il y a des aides aussi de l'État pour embaucher ce type de public. Donc ça aide aussi à ouvrir...
Est-ce qu'on peut rappeler les aides qui sont données pour les personnes handicapées?
Alors effectivement, il y a les aides financières dont on parlait, donc ce qu'on appelle les incitations financières. Hein, il n'y a pas d'allègement de charges sociales comme souvent c'est dit. Donc on est dans l'incitation, mais dans un cadre particulier, c'est-à-dire c'est pas du systématique, c'est au cas par cas. Et puis après, il y a les aides qui sont plus de l'ordre de l'aménagement dont on parlait tout à l'heure, de l'accompagnement. Donc là, c'est ce qu'on appelle la compensation du handicap. Donc là, c'est des aides spécifiques et qui se mettent en œuvre si nécessaire.
Est-ce qu'il y a un suivi du travailleur handicapé dans l'entreprise une fois qu'il a été embauché?
Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, nous, la mission de Cap Emploi, on a un suivi donc durant les 6 premiers mois d'intégration. Ensuite, s'il y a une difficulté particulière qui apparaissait durant l'embauche de la personne, c'est-à-dire au long terme, on parle à ce moment-là. Donc, si, par exemple, à un moment donné, la personne n'est plus en aptitude de rester au poste, vient prendre le relais le service financé par la GFIP qui s'appelle le SAMET. Voilà.
Est-ce que vous avez repéré quels étaient les freins pour les entreprises d'embaucher les personnes handicapées, puisqu'on est toujours, alors effectivement on est dans une période de crise, il y a moins d'emplois, donc est-ce que c'est les premiers touchés ou est-ce que effectivement il y a toujours cette, faut démystifier un travailleur handicapé, ça peut être une personne comme n'importe qui, le handicap on peut très bien gérer au sein d'une entreprise?
Bon, moi je dirais à ma lecture, Madame Jacob pourra peut-être rebondir aussi, mais le frein n'est pas forcément le handicap, c'est-à-dire que c'est le niveau de compétence qui est attendu avant toute chose dans une entreprise. Le frein effectivement est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le poste attendu, enfin les compétences attendues sur le poste par l'entreprise et la capacité de la personne à pouvoir le faire. Donc après, s'il y a un delta qui se fait, bien effectivement, il faut qu'on voit nous à notre niveau quelles sont les compensations que l'on peut mettre en œuvre pour limiter ce delta. Toutefois, effectivement, ce qui est entendu au niveau de l'entreprise, c'est une compétence. La difficulté qu'on a, nous, vis-à-vis du public, c'est le niveau de formation. C'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup de mise en œuvre de plans de formation, de l'alternance, qui est effectivement l'objectif de 2016 qu'on s'est fixé, pour monter en compétence ce public-là.
Ce sont des personnes, en plus, qui sont plus vulnérables, peut-être?
Non, je n'ai pas cette lecture. Enfin...
Non, moi non plus, je rejoins Madame Deschamps sur son analyse. Effectivement, non, il n'y a pas de frein par rapport à ça. Après, nous, je dirais que le Cap Emploi fait un gros travail en termes de contre-indications au départ et nous accompagne à amener ces personnes, effectivement, qui ont souvent un faible niveau de formation au niveau attendu. Mais après, la sélection, elle se fait sur les compétences et pas en fonction du degré d'handicap.
Ça serait presque des fois d'avoir des CV à l'aveugle, comme pour certaines personnes, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Non ?
Sur le CV à l'aveugle, je ne vois pas trop comment on pourrait le faire, puisqu'en l'occurrence, sur le CV, il n'y est pas forcément noté, la reconnaissance travail handicapé. Encore une fois, il s'agit vraiment de... Nous, le travail que l'on fait au niveau du Cap Emploi, c'est mettre en lien, je dirais, à la fois le projet de la personne, c'est-à-dire effectivement le métier qu'elle vise, et vérifier que le projet est en adéquation avec son handicap. C'est quand même la première étape que l'on fait. Donc après, dans la mesure où effectivement la personne se positionne sur le poste de travail, ça veut dire qu'elle en a et les compétences, d'un point de vue donc compétences attendues du travail, mais aussi les aptitudes par rapport à son handicap. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que s'il y a une différence, à ce moment-là, ben, on va amener les aménagements, les compensations nécessaires.
Ce que je voulais dire, c'est qu'à diplôme équivalent, une entreprise n'aura-t-elle pas plus envie d'embaucher une personne, entre guillemets, valide qu'une personne handicapée ? C'est dans ce sens-là que je vous posais la question.
D'accord.
C'est d'où l'intérêt là peut-être du CV à l'aveugle, parce que...
En sachant, de toute façon, la reconnaissance travailleur handicapé, la plupart du temps, elle n'est pas notée sur le CV.
Et justement, est-ce qu'un demandeur d'emploi a intérêt à la mettre ou pas à la mettre ? Tiens, question.
Nous, on conseille de ne pas la mettre, justement pour éviter ce barrage-là, tout en sachant que l'on conseille très fortement aux personnes d'indiquer leur contre-indication médicale lors de l'entretien d'embauche. Si vous voulez, c'est quand même quelque chose qu'il faut, notamment s'il y a un delta justement entre le handicap et puis le poste qui doit être occupé, il faut qu'on puisse envisager les aménagements de poste, et dans ce cas-là, il faut le signaler, hein, pour éviter de mettre la personne en difficulté. Et puis de toute façon, le médecin du travail est là pour dire s'il est apte ou pas apte au poste.
Oui, ou alors ça peut leur être utile dans le cadre des CUI notamment. Donc ça, c'est des contrats uniques d'insertion avec des aides financières de l'État pour embaucher certains publics. Et donc, effectivement, d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé peut permettre d'avoir droit à ces contrats-là. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, ils peuvent signaler qu'ils ont une RQTH. Mais il faut vraiment que ce soit pour leur servir.
Alors, ce que je vous propose, on va faire une dernière pause musicale et puis on terminera par l'agenda. Donc, on a choisi Stéréophonics, c'est la vie.
Look back now, I got a smile on my face. Come on, baby, take
C'était Stéréophonix. Le titre, c'est La Vie. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre. Et je suis en compagnie de Madame Jacob Descartes-Bertelet, de Madame Schneider et Madame Deschamps de Cap Emploi et de Madame Bali de Pôle Emploi. Aujourd'hui, nous débattons de l'emploi des personnes handicapées. Alors, on va terminer cette émission par l'agenda. Alors, quel est votre agenda? On commence peut-être par les Descartes-Bertelet.
Oui, donc sur le premier trimestre 2016, on a une dizaine de recrutements de conducteurs qui sont en cours, qui sont lancés. Donc si des personnes sont intéressées, je vous invite à vous rapprocher de votre pôle emploi pour faire part de votre projet et on réceptionnera les CV.
Le pôle emploi?
Oui, alors nous, on a, avec Cap Emploi, justement, en collaboration, nous organisons toutes les années, ça va faire la quatrième année, là, cette année. Donc, troisième année, pardon, un job dating en collaboration avec Manpower. Donc, c'est un job dating qui est spécifique pour les travailleurs handicapés. Donc, il va se dérouler au mois de février. On n'a encore pas arrêté la date. C'est en cours. Ce sont des postes pour les travailleurs handicapés exclusivement. Et donc là, il faut effectivement s'inscrire auprès du Cap Emploi ou de Pôle Emploi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est que le job dating?
Ce sont des mini-entretiens avec un employeur. Donc là, c'est avec Manpower. Et ce sont des entretiens d'environ 10 minutes. Donc nous sélectionnons des candidats en fonction des postes que Manpower nous donne. Et puis ensuite, ils passent les entretiens avec Manpower qui font une présélection. Et ensuite, il y a un entretien final avec l'employeur final.
Alors, est-ce que vous les préparez à ce job dating? Vous faites des simulations, je suppose?
On les envoie effectivement sur des ateliers. Donc, ce sont des préparations sur une demi-journée pour préparer aux entretiens de courte durée, parce que se présenter effectivement en 5-10 minutes, c'est pas évident. Donc, du coup, on a des ateliers pour ça.
Côté Cap Emploi?
Donc on va donc mettre l'accent en 2016 sur l'alternance, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il faut absolument que nous on accompagne les demandeurs d'emploi qui sont reconnus travailleurs handicapés en montée en compétence sur l'aspect formation. Donc voilà, on va essayer de monter des programmes particuliers sur la formation. Et puis donc on va aussi mettre l'accent sur le public senior avec un travail sur le transfert de compétences, puisqu'on le public senior est aussi dans la cible donc des personnes qui sont aussi reconnus travailleurs handicapés et demandeurs d'emploi longue durée.
Les seniors sont de plus en plus aussi impactés par cette problématique?
Oui, tout à fait.
Je vois que Madame Bali hoche la tête.
Ah oui, tout à fait. Le pourcentage de seniors augmente chaque année.
Alors, on est seniors à partir de quel âge, rassurez-moi?
Quoi? 50
eh bien, ans. 45 ou 50, ça dépend de la lecture européenne ou nationale.
Alors, on ne peut pas travailler avant 30 ans parce qu'on n'est pas assez expérimenté. Et ensuite, on ne peut plus travailler à partir de 45. Ça fait 15 ans de carrière, c'est court, ça.
La fenêtre est courte, oui.
Alors moi, j'aimerais qu'on termine cette émission en essayant de tirer une conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les mentalités évoluent, pour que les entreprises embauchent des personnes handicapées? Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer comme message pour leur dire, voilà, il faut y aller, quoi, parce qu'on ne peut pas les laisser au bord du chemin?
Ce que l'on peut donner comme message aux entreprises afin de leur donner envie d'embaucher des travailleurs handicapés, c'est que ça ressort de témoignages d'entreprises qui ont déjà embauché des travailleurs handicapés, c'est que ça fait évoluer la mentalité de tous les salariés de la structure. Et donc ça, c'est super important.
Moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, enfin, le cursus de recrutement est un cursus qui est malheureusement très court actuellement, c'est-à-dire que les entreprises ont des demandes qui sont toujours un peu dans l'urgence. Travailler dans l'urgence dans le domaine du handicap, c'est pas toujours la meilleure option. On a besoin aussi de temps pour accompagner les entreprises sur leur process de recrutement, pour les aider à démystifier le handicap, les accompagner sur la sensibilité de leurs équipes, parce que souvent les managers sont convaincus, mais il faut aussi convaincre l'ensemble des collaborateurs qui vont aussi travailler qu'une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc c'est un cursus qui est long, et quand on a effectivement une demande urgente, quand on a une personne travailleur handicapé qui est face aussi à une personne, enfin sur le processus de recrutement avec des personnes qui ne sont pas reconnues travailler handicapé, quelquefois ça peut être un frein aussi, où l'entreprise, elle est dans l'urgence, elle a moins le temps de faire cette démarche d'intégration. Bon, quelquefois ça se passe naturellement, hein, sans souci, mais ça, c'est gênant.
Alors pour le Cap Emploi, par exemple, c'est combien de personnes accompagnées, combien d'entreprises partenaires qui acceptent effectivement de jouer le jeu et de recruter des personnes handicapées? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner?
sur l'année. Donc, en tout cas, si on parle juste au niveau de Bourgoin, hein, donc au niveau de notre agence, nous sommes donc 4 conseillers à l'emploi et un conseiller en formation. Donc, on a mis en œuvre sur l'année 2014 à peu près 451 contrats, dont 23% de CDI. Voilà ce qu'on a fait, nous, au niveau de localement. Et sur les départements, c'est 1656 contrats mis en œuvre. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une goutte d'eau. Bon, on apporte chacun un petit peu notre pierre à l'édifice, mais il y a encore un long travail. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à en parler.
Cap Emploi, il est sur quel secteur géographique ? Alors, enfin, celui qui est à Bourgoin-Jallieu.
Donc nous, en fait, nous sommes une structure donc départementale. Donc il y a une agence donc à Bourgoin, une agence à Vienne, une agence et notre siège à Fontaine, près de Grenoble.
Quand, si on veut vous contacter, on fait comment ?
Tout simplement, alors on nous trouve bien sûr sur, Internet, hein, donc en tapant Cap Emploi, on trouve nos coordonnées, on appelle à l'agence. Après, il y a toute une démarche, effectivement, si on est une personne, en tous les cas, une démarche pour obtenir un rendez-vous. Et puis si on est en entreprise, eh bien, il y a toujours un conseiller à l'emploi pour répondre à la demande de l'entreprise et aller les rencontrer.
Est-ce qu'il y a l'obligation déjà d'être inscrit comme demandeur d'emploi ?
Oui, puisqu'on est quand même sur une démarche active de recherche d'emploi. Donc, en général, les personnes qui sont en démarche de recherche active d'emploi sont inscrites à Pôle emploi.
Parce que ça pourrait être quelqu'un qui est dans une entreprise et qui éventuellement aura envie de se reconvertir. Est-ce qu'il peut passer par Cap Emploi ou il fait sa reconversion en passant par Pôle emploi ? Il fait comment ?
Sujet délicat. Normalement, effectivement, enfin, un process dont on accompagne les personnes qui sont en démarche d'emploi. Donc forcément, quelqu'un qui va démissionner pour rechercher un autre emploi, il va être soit proactif et il est déjà en contact avec d'autres entreprises, soit effectivement il va tomber à nouveau dans l'inscription au niveau de la recherche d'emploi et après il range.
Ça serait quelqu'un par exemple qui est dans une entreprise mais qui a envie de se former dans autre chose et partir ailleurs avec son statut malheureux de travailleur handicapé.
Et salarié
avant tout. Donc après, tout le process de requalification, quand on est salarié, on passe par un CIF, on passe par l'alternance.
Voilà. Donc c'est un autre process. Eh bien, je vous remercie. Donc nous étions en compagnie de Madame Jacob Descartes-Berthelet, de Madame Schneider et Madame Deschamps du Cap Emploi et de Madame Bali de Pôle Emploi. De retrouver donc toutes les informations ou sur le site du Pôle Emploi ou sur le site de Cap Emploi. Et puis je suppose que les Carbertelet ont aussi un site internet.
Tout à fait, et une adresse donc recrutement@berthelet.fr pour postuler en direct.
Eh bien, je vous remercie.
Merci.
Merci. Merci.
On termine avec une pause musicale. Le titre, Le Bon Gros Géant, et c'est Soul.
On m'appelle le bon gros géant, et je ne sais plus trop depuis quand. Sans doute depuis que tout un tas de gens m'ont donné ce surnom charmant. Tous ces petits jurons d'antan, finalement, avec le temps, je crois que je ne m'en soucie plus tant, ou du moins plus autant qu'avant. Paratonnerre, rouge et en vert, la mauvaise herbe de travers. J'en ai connu des poésies, pour mes guiboles qui s'entortillent. Mais à mesure que le temps passe, on accepte sa foutue carcasse. J'suis pas fait comme tout le monde.
C'est bizarre.
Et même à des kilomètres à la ronde, j'en ai connu du monde.
C'est bizarre.
Et jamais t'es comme moi, ça non. Jamais t'es comme moi. Mais jamais t'es comme moi, ça non. Jamais t'es comme moi. On m'appelle le bon gros géant. Je ne sais plus trop depuis quand. Je crois bien que déjà tout petit, on me disait mais reste assis. Y a tant d'années que ce grand corps rêvait de crier haut et fort. Laissez-moi courir sur l'herbe verte, le bon gros géant vous emmerde. Laissez-moi courir sur l'herbe verte, le bon gros géant vous emmerde. J'suis pas fait comme tout le monde.
C'est bizarre.
Et même à des kilomètres à la ronde, j'en ai croisé du monde.
C'est bizarre.
Mais jamais t'es comme moi, ça non. Jamais t'es comme moi. Mais jamais t'es comme moi, ça non. Jamais t'es comme moi. À tous les nains, les gros, les borgnes, les cyclopes et les gens difformes, je dédie ce dernier couplet. Et l'ambassadeur, je me fais des bouboules et des gargamels, des vieux binoclars et des filles pas belles. À tous les joufflus, les ventripotents, les édentés, les dégoûtants, les toqués, les gros, les anorexiques, les fibromyalgiques et les épileptiques, les chauves, les bossus, les pieds en canard, les gens trop poilus. Je vous ouvre les bras béants, mes deux bras
fait comme tout le monde.
C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre.
Et sur des kilomètres à la ronde, j'en ai croisé du monde.
C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre.
Et si j'avais su comme deux fois trois pommes, que descendu parmi les hommes, dans mon cœur il me ferait roi, roi des plus démunis que moi. J'aurais grandi comme Artaban, fier comme un bon gros géant. Le bon gros géant, le bon gros géant, le bon gros géant. Le bon gros géant, le bon gros géant, le bon gros géant, le bon gros géant, le bon gros géant.
Cette émission vous était proposée dans le cadre du projet SPRO, le service public de l'orientation, en partenariat avec la mission locale Nord-Isère, la région Rhône-Alpes, Plume Studio et Couleur FM. Retrouvez ces émissions sur le site internet www.onitv.fr. Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h.